vous dis un petit peu qui je suis parce que c'était pas indiqué. Je m'appelle Yann Farsi. J'ai fait un label qui s'appelait L'Invitation Suicide, qui a eu quand même une certaine renommée dans les années 80. Et comme je le disais tout à l'heure aussi, en 76, j'ai eu la chance, par hasard, de voir les Pistols. Et je veux dire que ça m'a un petit peu marqué. J'ai été quand même punk pendant 6 mois, mais à fond. À fond. Donc, voilà, j'ai un court résumé. Donc aujourd'hui, mon but, c'est de vous parler de la poule et de l'œuf, en fait. Quand je veux dire la poule et de l'œuf, c'est le paradoxe de la poule et de l'œuf, que vous connaissez tous. Qu'est-ce qui est là, la première, l'œuf ou la poule? Et je me suis posé un peu la même question pour le punk. À savoir, qu'est-ce qui est arrivé en premier? Le punk ou l'image punk ou l'attitude punk incarnée pour moi par un seul homme, Johnny Rotten? Qu'est-ce qui a créé le punk en fait? Comment ça s'est organisé? Donc, et aussi, cette attitude peut-elle être considérée comme une attitude dandy? Donc je vais déjà faire une petite introduction sur le dandysme, parce que pour la plupart des gens, le dandysme, c'est... Non, je dirais avant de parler du dandysme, je vais revenir au dandysme avant. Je dirais, pour revenir à Johnny Rotten, au début du 19e, il y a eu un groupe de dandys anglais, des bourreaux comme on les appelait, qui se faisaient tailler des costumes somptueux, dans des matières somptueuses, vraiment des choses très très chères, mais qui avant de les porter, les faisaient étriller, élimer, poncer par leurs serviteurs pour les porter en lambeaux, pour les porter en miettes, je veux dire complètement usés et abîmés. Et en 75, quand Malcolm McLaren rencontre pour la première fois Johnny Rotten, qui a été repéré par Bernard Rhodes, qui sera le futur manager des Clash, Johnny Rotten lui apparaît avec un pull en mohair complètement déchiré, retenu par des épingles à nourrice, un pantalon élimé, le t-shirt, célèbre t-shirt I Hate Pink Floyd. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis posé la question, est-ce que le punk ne serait en fait par Johnny Rotten, en fait, par l'attitude de Johnny Rotten qu'il aurait eu déjà avant. Donc là, j'en reviens à ce qu'on appelle le dandysme. Donc le dandysme, pour la plupart des gens, c'est quelqu'un qu'on dit dandy, c'est être élégant, très élégant, avoir une certaine allure. Mais pour moi, un dandy, c'est pas que ça, et c'est pas du tout que ça. Évidemment, un dandy soigne son apparence, et il s'invente une image personnelle. Il s'invente une manière de s'habiller qui lui est complètement propre et qui surtout n'est pas liée à la mode. C'est quelque chose de complètement à part. Deuxièmement, c'est aussi une attitude, un dandy. C'est une attitude qui est généralement faite de morgue, d'irrévérence, d'irrévérence pour l'ordre bourgeois de son époque, l'ordre bourgeois qu'il méprise généralement et qu'il rejette. Il rejette aussi la morale de cet ordre bourgeois et ses valeurs. Il est généralement ici très iconoclaste, il rejette l'art de son époque, l'art qu'il considère comme bourgeois et établi. En même temps, le dandy, c'est quelqu'un qui séduit et fascine, mais lui, il ne fait rien pour séduire. Il peut être horrible, vraiment détestable, cruel, il possède un sens inné de la répartie, je veux dire, c'est quelqu'un d'assez détestable, effectivement, mais il s'impose partout. Il rayonne dans les salons, et il a très peu d'amis réels, mais il a généralement une petite cour autour de lui, qui s'agglutine autour de lui, si cette cour le craint. Et en même temps aussi, le dandy se crée un lieu pour vivre à lui, une espèce d'antre un peu particulier et excentrique. Alors là, donc maintenant, je vais en revenir à Johnny Rotten. Donc, en 74, Johnny Rotten porte les cheveux très longs. Très très longs. Il a 16-17 ans. Et un jour, son père, excédé, mais totalement excédé par ses cheveux longs, exige de lui qu'il aille chez le coiffeur. qu'il se fasse couper les cheveux. Donc John obtempère et va chez le coiffeur, se les fait couper très court, complètement explosé, mais il revient avec les cheveux teints en vert. Très court, teint en vert. Donc,
comme Baudelaire.
Oui, exactement, comme Baudelaire. Voilà, donc la deuxième apparence de Johnny Rotten. Et donc, à cette époque-là, il invente son look punk déjà, cheveux courts, teints, vêtements rapiécés, usés, t-shirts aux inscriptions provocatrices. D'ailleurs, il déclara dans une de ses deux biographies, je ne me rappelle plus laquelle exactement, « Quand j'avais 17 ans, j'avais l'habitude de déchirer mes costumes en mille morceaux et de les remettre ensemble à l'aide d'épingles à nourrice. J'étais habitué à ce que l'on me traite de tous les noms dans la rue pour oser porter ce genre de choses. C'est assez difficile à expliquer, mais j'ai toujours eu un certain flair pour imaginer ce que mettent les clodos à Londres. Clodo, clochard, SDF, peu importe comment vous les appelez, ils ont toujours une meilleure manière de porter leurs vêtements. En laissant de côté la crasse, ils me paraissent si stylés. » Je fais un petit parallèle. Barbey d'Aurevilly, qui était un célèbre dandy du 19e, avait acheté une houppelande à un vagabond dans la rue, qu'il avait fait doubler de satin, mais qu'il portait dans les salons malgré la puanteur de la chose, en se moquant totalement des réactions des bourgeois et aristocrates qui le recevaient. Voilà, donc il y a encore... déjà un petit parallèle. Alors, autour de lui, commencera à s'agglutiner un petit nombre de personnes. Certains, on appellera les quatre John. Il y a John Gray, John Rambo, Jawobble. Et toujours, le même Rotten dira plus tard, ces 10-20 types, c'est définitivement tout ce que le punk a généré. Nous n'avions rien à voir avec Malcolm McLaren ou avec d'autres des Pistols. Nous étions très bien organisés avant qu'ils n'entrent en scène, et longtemps aussi avant que je les rejoigne. Ce que les Sex Pistols ont acheté quand ils m'ont eu, c'est l'image tout entière, c'est devenu catalogué, estampillé, emballé. D'ailleurs, Steve Jones, qui ne porte pas dans son cœur Johnny Rotten, puisqu'il l'a toujours détesté, déclara lui aussi de son côté, il y avait quelque chose d'hypnotisant. Il portait des trucs punk. McLaren n'y était pour rien, il avait toutes les épingles à nourrice et tout ça, il avait un t-shirt I Hate Pink Floyd et ses cheveux étaient orange et vert. Donc, et pendant toute la période, la courte existence des Pistols, Johnny Rotten va renouveler son look, ça va renouveler son look, entre autres en refusant les oukases de McLaren qui obligeaient les membres du groupe à porter les vêtements de la boutique sexe. C'était d'ailleurs même contractuel, parce que c'était mis dans le contrat des Sex Pistols. Et donc, lui va s'y opposer complètement, je veux dire. Et par rapport aussi à Johnny Rotten, on voit que par rapport aux autres membres du groupe des Pistols, il est quand même complètement en avant. Je veux dire, c'est... on dira... moi, qui les ai vus à l'époque, sur scène, j'ai vu que Johnny Rotten, je veux dire, c'est... et même là, sur les photos, on voit, même de par son attitude, de par sa manière de poser, il y a une rupture par rapport au reste du groupe. Ça se sent. C'est limpide. Et donc, par rapport au renouvellement de look, voilà d'autres looks de Johnny Rotten à l'époque. Donc, il refuse d'obéir à Vivienne Westwood et à McLaren qui obligeaient le groupe à porter leurs vêtements. Aussi, chose extrêmement importante, McLaren, quand il a concocté dans sa tête l'idée de la formation des Sex Pistols, avait comme idée de faire une version plus rock des Bay City Rollers. D'ailleurs, c'était un groupe que Paul Cook, Glenn Matlock et Steve Jones aimaient bien. Et d'ailleurs, ils aimaient bien les Faces. Donc, je me suis amusé à faire ça. Donc les Bay City Rollers et les Faces, on est quand même très loin de l'imagerie punk.
Ah ouais, c'est chaud.
C'est quand même... et c'est la référence majeure qui revient souvent dans leurs propos, dans les propos de McLaren.
Ah ouais.
Voilà. Donc pour revenir à Johnny Rotten, je dirais qu'il invente l'attitude punk à lui seul, parce que, je veux dire, en concert, pour l'avoir vu, je peux en parler, il s'interrompt au milieu des concerts, il invective le public, il n'essaie pas du tout de séduire le public. Même les groupes rock un peu violents et autres essayaient néanmoins de séduire le public. Lui s'en moque totalement. Il cherche à aucun moment à flatter le public. D'ailleurs, Bob Groen, qui est un photographe qui a beaucoup photographié la scène punk de l'époque, déclara plus tard « Johnny Rotten était distant. Vous le voyez rarement baratiner les filles comme la plupart des musiciens. Son attitude était que rien n'était bien. Il était seul, cynique et en colère. Il semblait être là uniquement pour observer les réactions qu'il déclenchait en étant si désagréable, quelque chose qu'il faisait assez bien. » Rotten, lui, de son côté, déclara plus tard « Les gens pensent qu'il suffit de s'habiller, mais ce n'est pas le cas. Il faut l'attitude qui va avec, une ligne directrice, sinon c'est complètement inutile. » Le punk apparaît au grand public avec l'émission de Bill Grundy. Tout le monde connaît l'événement. Le scandale, c'est plutôt Siouxsie qui le crée avec Steve Jones. Johnny Rotten intervient très peu. Par contre, la presse va le prendre comme ennemi public numéro un. C'est lui qui va focaliser toute la haine du public et d'une grande partie de l'opinion publique anglaise. Pas les autres, lui. Il endossera ce rôle sans essayer d'y échapper. Il en fera même le clou avec des titres comme « God Save the Queen »,« Anarchy in the UK » qu'on connaît tous. Donc, Johnny Rotten, en faisant ça, bah justement, il provoque la bonne conscience de l'établissement anglais. Il provoque la middle class anglaise qu'il déteste clairement. Il déteste aussi la monarchie et ses contes de fées, tout ce qui se passe autour du jubilé. Là, il déteste les hippies, il déteste... Donc, on retrouve un peu le cadre, justement, du dandy qui rejette le monde qui est autour de lui. D'ailleurs, plus tard, quand on lui parlera d'anarchie, il fera un bémol. Il dira que lui, il qualifiera cette notion d'anarchie non comme une notion politique, mais comme une attitude personnelle. Il dira, il ne s'agissait pas d'anarchie politique, parce que encore aujourd'hui, je pense que l'anarchie, ce n'est qu'un outil de manipulation des classes moyennes. Ah non. Mais c'est plutôt comme une anarchie personnelle, ce qui est tout différent. C'est ce que lui dit. Je veux dire, c'est pas ce que je n'affirme pas. Voilà. Rotten est aussi détesté par la plupart des autres membres du groupe, par McLaren. Et il est simplement entouré par son noyau d'amis, toujours les mêmes, John Gray, Jah Wobble et autres. Et à cette époque-là, il habite une maison, je crois que c'est à Gunter Grove, si je me rappelle bien, si je ne fais pas d'erreur, qui a une certaine excentricité, on va dire. Il a une pierre tombale en guise de tête de lit. Il y a des obscurités permanentes, il y a des crucifix sur le mur. Son chat se nomme Satan. Il y a plein de gens qui y habitent, dont une jeune femme échappée d'asile psychiatrique qui veut absolument éliminer tout le plastique parce que ils, entre guillemets, sont attirés par le plastique. Il y a Polystyrène, dont on a parlé, la chanteuse de X-Respects, qui décide de désenvoûter, qui estime que la maison est tentée et essaye de la désenvoûter. Donc, on retrouve aussi l'espèce de, ce que je disais, de notion tout à l'heure du dandy, l'antre où il vit, entouré dans un univers assez décalé, en fait. Pour revenir à la musique punk, la musique punk, le retour de ce son rock assez brutal était dans l'air dans les années 75-76, aux États-Unis, peut-être un peu plus, mais en Angleterre aussi. Je pense, pour moi, que Johnny Rotten, c'est le seul qui va lui donner une image, une attitude, de par sa manière d'être et sa manière d'agir. C'est-à-dire que la musique préexistait, mais il crée une image iconique, c'est-à-dire auquel on va se référer. D'ailleurs, il suffit de regarder les photos de certains premiers groupes punk, je veux dire, c'est... Le look qui n'est pas vraiment punk. Là, j'ai pris les concurrents dits proches, les Clash, en 76. Voilà. Et Il y a même Steve Jobs qui dit que au début, il s'habillait n'importe comment. On en a un peu la preuve.
C'est vrai.
C'est pas du tout punk.
Ouais,
ouais. Bon, après, pendant une courte période, les Clash, du moins, c'est plutôt le manager des Clash qui leur invente un look un peu plus punk. C'est Bernard Rhodes qui le crée. Mais rapidement, bon, ça va durer quelques mois, mais rapidement, ils vont revenir à un look beaucoup plus rock, comme on peut le voir, qui, moi, me fait beaucoup penser à un film célèbre de 1953, L'équipée sauvage.
Oui, super.
Et d'ailleurs, dans la tenue et même dans les poses. Et ça, je veux dire, donc, c'est pas punk, c'est plutôt un retour en arrière. Donc là, j'ai mis d'autres photos de groupes punk, et pas des moindres, parce que la plupart sont quand même de très bons groupes qui ont tous fait des très bons disques, à mon point de vue. Je veux dire, moi, personnellement, je suis pas fanatique des Buzzcocks, mais c'est un groupe qui est reconnu et revendiqué. Je veux dire, et tous les autres, Heater, c'est un très bon groupe. Johnny Moped a fait un très très bon album. Adverse, on a vu des images tout à l'heure, c'est un fabuleux groupe. Subway Sect a fait un 45 tours qui est pour moi la quintessence punk. Il y a deux titres, mais dont Everyone is a Prostitute, qui est un morceau fabuleux. Donc X-Respect, Penetration. Après, je ne sais plus si j'ai encore d'autres photos. Wire aussi, qui est un groupe incontournable quand même. J'ai aussi mis des photos de Richard Hayes à la fois dans les Vaudevilles et Television, parce qu'on a souvent dit que c'est un truc qui énervait beaucoup de Johnny Rotten et qui l'énerve toujours aujourd'hui, quand on dit qu'il a copié le look de Richard Hell, c'est clair que le look de Richard Hell n'est pas extrêmement punk. Même si sur d'autres photos, il peut l'apparaître plus. C'est des photos de concert des années 76-77, je pense. Voilà. Pour en venir à Clash, donc ils inventent... ils inventent ce look... habillé en noir, pantalon noir, Rangers, look quasi militaire. Y a un groupe qui va arriver juste après qui s'appelle Crass. D'ailleurs, il y a une similitude, Clash Crass, qui va sauter soudainement à l'oreille. dont le leader, Penny Rimbaud, expliquera dans un texte figurant sur la pochette d'un album Best Before, que le port de vêtements noirs était pour eux une manière de s'opposer à la picoquerie narcissique des punks à la mode. En fait, le mot picoque, ça veut dire pan, l'animal. Je ne sais jamais comment on dit exactement pan, pardon, je ne sais jamais. Pan, voilà. Donc, on pourrait dire paonnage, en néologisme, je veux dire, tiré de paonner. Et d'ailleurs, au passage, Robert de Montesquieu, qui était un dandy du 19e, se faisait traiter par ses ennemis de pan. On retrouve encore des parallèles. Et plus tard, Marco Pironi, qui est devenu un membre de Adam Indians, qui était au début de la scène punk, dira que le punk est mort le jour où les Doc Martens sont apparus. Le mot picoquerie n'est quand même pas un hasard dans les mots de Penny Rimbaud qui va véhiculer à travers Crass un look qu'on connaîtra dans les années qui suivent. Par contre, là où Johnny Rotten a une influence, je pense que c'est dans le public qui, contrairement au groupe punk, comme on l'a vu, qui eux ne s'habillent pas entre guillemets en punk, le public adopte l'attitude punk, l'attitude vestimentaire de Johnny Rotten, en la poussant à l'extrême. Et chacun, et les looks sont tous très différents. C'est pour ça que je parle du culte du moi. C'est-à-dire que chacun s'invente. On est dans le do-it-yourself. C'est-à-dire qu'à l'époque, les vêtements, chacun se les fait. Là, on voit bien que c'est le public, en fait, qui crée. Et mon égocentrisme m'a amené à même ajouter une photo de moi. De 76.
Oui.
Oui, moi. Qui prouve d'ailleurs que j'avais des cheveux. Et à l'époque, j'avais plusieurs dizaines de photos de moi sur moi, écrit moi. Je veux dire, donc.
Génial.
Donc, je portais des costumes que je faisais moi-même, que je peignais, déchirais et autres. Donc, je parle fin 76, début 77. Et donc, j'en avais toute une réserve de photos écrites. Moi.
Excellent.
Voilà, c'est... Et là, j'en viens à Crass pour remontrer justement la rupture après.
À Crass.
Donc, en 78. Et je me suis quand même amusé à mettre une photo de Penny Rimbaud plus récente, parce que je trouve qu'il y a quand même une espèce de raccourci presque du temps, parce que ça ferait presque photo de pochette de groupe progressif.
C'est vrai.
On n'est pas loin des albums progressifs que les punks haïssaient. Donc, pour finir, je reciterai encore Rotten. J'ai essayé d'être bref, d'être concis. Je pense que ça vous plaît. Donc, les Sex Pistols n'étaient pas du tout New Wave. Ils n'avaient rien en commun avec les groupes qui sont devenus New Wave. Tout comme nous n'avions rien à faire avec les groupes qui sont devenus punk. J'ai toujours voulu être complètement séparé d'eux. C'était tous de pâles imitateurs qui ne faisaient que prendre le train en marche et essayaient de tout adoucir afin de gagner des masses de fric et mener une vie facile. Tous, sans exception, voulaient devenir des stars. Et une dernière petite chose, parce qu'on pourrait me dire que j'ai pas parlé de...
Voilà, merci Yann pour cette communication très éclairante et le parallèle avec le dandysme et ouais. L'esthétique punk. Et voilà.
Puis il y avait plein de photos à montrer avec son béret.
Oui, j'ai essayé de sortir des photos qui étaient un peu moins connues différentes.
Non, mais son look a eu un impact direct sur nos générations.
Mais c'est ce que tu as dit, le côté iconique.
C'est devenu une icône. C'est-à-dire que s'il n'avait pas été là, est-ce que le punk aurait existé? C'est un peu la question que je me suis posée.
Paul McLock, Paul Cook et Steve Jones, c'était...
Ils étaient inexistants. C'est pour ça que j'ai montré la photo. Bon, là c'est qu'un début, c'est qu'un début d'idée, mais je pense que c'est quelque chose à creuser, de savoir est-ce que le punk aurait existé tel qu'on l'a connu et aurait eu l'impact, parce que c'est cette image du public et de Johnny Rotten qui ont fait. D'ailleurs, si on se rappelle, par exemple, un des premiers documentaires dans des journaux français, c'est le magazine féminin Elle. En fin 76 ou début fin 76, qui fait 4 pages sur la mode punk et qui présente en fait le public, qui fait que des photos du public.
Le Live au Roxy, là, c'est cet album.
Le Live au Roxy, c'est aussi que le public. Donc, donc je ne dis pas que j'ai totalement raison, mais je pense qu'il y a quelque chose à creuser.
Peut-être que la seconde figure iconique, mais on verra avec Jessica, c'est peut-être Sid Vicious, peut-être qui arrive à. Parce que tu n'en as pas parlé, mais bon.
Il arrive avec un look là aussi qui est.
Ça t'interviendrai après
Alors on pourra mêler les questions, donc on va. Merci Yann, merci encore, bravo.
C'est aussi pour ça qu'on vient avec.
C'est pour ça que
je vais pas parler de Sid Vicious aussi parce que il y avait la suite.
On va en parler tout de suite. Merci beaucoup Yann.
Merci.